Radio Kapi.
Oh, Kapi. Les informations, Blaise Shindani Kambala.
Au sommaire de ce journal, concernant l'éboulement survenu mardi 3 mars dans la mine de Roubaix à Nord Kivu, l'heure est à la recherche des corps et les proches des victimes, eux, attendent de pouvoir enterrer dignement le leur. Crise humanitaire en RDC, Kinshasa sollicite environ 1,4 milliard de dollars américains auprès des partenaires. Demande lancée mercredi à Kinshasa par la ministre des Affaires sociales. Objectif, répondre aux besoins humanitaires urgents en 2026. La constitution de la RDC promulguée depuis 20 ans continue de diviser les acteurs de la classe politique congolaise. Si les uns, membres de l'Union sacrée de la nation, optent pour sa révision ou son changement, les autres membres de l'opposition sont contre cette démarche. Cette question a fait l'objet du débat entre les intervenants dans l'émission Dialogue entre Congolais d'hier jeudi. Vous les suivrez tour à tour au micro de Jean-Marc Matoaki-Mofelele qui a animé cette émission. Mesdames et messieurs, bonjour à tous. Suite de l'éboulement survenu mardi 3 mars dans la mine de Roubaix au Nord Kivu, l'heure est à la recherche des corps et l'opération se poursuit sur ces sites miniers situés à environ 70 km à l'ouest de Goma dans les territoires de Masisi. 6 personnes n'espèrent retrouver les survivants dans ce drame qui a coûté la vie à plus de 200 personnes. Les proches des victimes, eux, attendent de pouvoir enterrer dignement les leurs. Sur place, les autorités ont ordonné l'arrêt momentané de toute extraction minière. Le point sur la situation avec et la Chembalo.
À Roubaix centre, la vie reste marquée par l'éboulement de mardi. Un habitant contacté sur place jeudi soir raconte que de son lieu de travail, il a vu passer tout au long de la journée plus de 10 corps en provenance du site de Gassassa, certains attachés sur des motos. Dans leurs échanges, les habitants discutent des dangers de travailler sur les sites miniers. Pour eux, travailler dans les galeries souterraines, c'est risquer sa vie au quotidien. Mais l'éboulement de mardi, qui a aussi coûté la vie aux petits commerçants sur les sites, étend les rayons du risque. Pour l'instant, les autorités ont suspendu les travaux d'extraction minière sur les sites de Gassassa, indique des sources sur place. Une bonne décision, selon un acteur local, mais il craint que cela ne dure pas, car selon lui, même si le terrain est dangereux et marécagé sur ces sites, Gassassa est parmi les sites très actifs de Roubaix. Jusqu'à présent, il est difficile d'avoir un bilan de ces drames, même si les premières estimations faisaient état de plus de 200 morts.
Entre-temps, des réactions sur cet accident continuent de nous parvenir. La dernière est celle du ministre des Mines, Louis Wantoum Kabamba, dit avoir appris avec consternation cette tragédie de Roubaix au Nord Kivu et présente ses condoléances aux familles endeuillées. Il regrette en même temps que les règles élémentaires de sécurité ait été négligé dans cette mine qui a coûté la vie à plusieurs personnes. Le ministre souhaite enfin le rétablissement rapide de la paix dans la région afin que le gouvernement puisse gérer ce site minier avec responsabilité. On écoute Louis Wantoum Kabamba dans cet extrait proposé par Alain Irung.
Je suis pour la tristesse de présenter mes condoléances les plus émues à toutes les familles éprouvées à la suite de l'éboulement qui vient encore de se passer, où nous comptons environ 200 morts. Nous devons arrêter cette comptabilité macabre. La raison donnée, c'est qu'il y a eu des pluies abondantes qui ont causé des glissements de terrain. J'aimerais dire une chose, j'ai 35 ans d'expérience dans les mines, en toute modestie, en toute humilité. Une mine ne s'écroule pas parce qu'il a plu abondamment. Une mine s'écroule lorsqu'elle a été mal gérée, lorsqu'il y a eu un mépris des règles élémentaires de sécurité. C'est quand la mine s'écroule. Nous avons fait du mining dans des conditions extrêmes de pluviométrie et on n'a jamais vu des éboulements comme ça. Et d'ailleurs, au dernier trimestre de l'année passée, j'avais même pris un arrêté pour déclarer cette zone-là une zone rouge. On ne peut pas faire du mining dans cette mine-là parce que les conditions n'étaient pas réunies. Et donc nous déplorons cet état de choses. Nous déplorons tous ces morts dans cette comptabilité macabre, tout en présentant les condoléances aux familles éprouvées, et nous formulons de tous nos voeux le retour de la paix et de la stabilité dans cette partie du pays, pour que nous reprenions contrôle de ces mines et nous puissions les gérer avec la responsabilité.
Crise humanitaire en République démocratique du Congo, sachez que Kinshasa sollicite environ 1,4 milliard de dollars américains auprès des partenaires. C'est la ministre des Affaires sociales qui a lancé cet appel mercredi à Kinshasa. Objectif, répondre aux besoins humanitaires urgents en 2026. Eve Bazaïba a annoncé cette estimation en envisageant aussi le retour des réfugiés congolais qui sont au Burundi. Explication avec Blaise Ndongala Mayanda.
Selon la ministre, cette enveloppe est nécessaire pour assurer l'aide alimentaire, la santé, l'éducation et la protection des populations vulnérables dans un contexte de tensions et de déplacements internes. La crise humanitaire est aggravée par l'instabilité sécuritaire dans plusieurs provinces, notamment au sud Kivu, où la situation à Uvira commence à s'améliorer, ouvrant la possibilité d'un retour volontaire des réfugiés. Actuellement, environ 250 000 Congolais se trouvent dans sept sites d'accueil au Burundi. Une réunion tripartite se tiendra prochainement entre le gouvernement congolais, les hauts commissariats des Nations Unies pour les réfugiés et les autorités burundaises afin d'organiser ces processus dont l'objectif est de préparer un retour sécurisé et coordonné tout en continuant à répondre aux besoins immédiats des populations déplacées.
Et puis cette découverte d'armes en Ituri, l'armée affirme en effet avoir découvert mercredi dernier une importante cargaison d'armes et munitions au village de Noro situé à environ 45 km au nord de Bunia dans le territoire de Djougou. Des armes attribuées à la milice CRP. C'était au cours d'une opération de nettoyage de la zone avec comme objectif de réduire la capacité des nuisances de cette rébellion. Selon plusieurs sources locales, ces effets de guerre appartiendraient à la milice de la Convention pour la Révolution Populaire, CRP de Thomas Lubanga. Ils étaient cachés dans un faux site d'or. Marshal Kizabia Mungu.
Il s'agit de plusieurs centaines de caisses de munitions, d'armes de type AK-47, de PKM, mais aussi des armes de pointe et plusieurs autres effets de guerre. Ce jeudi, vidéo à l'appui, les porte-parole de FRDC à Ituri, le lieutenant Jules Ngongo, a affirmé que c'était au cours d'une opération ciblée menée par les forces loyalistes pour réduire la capacité logistique des nuisances du groupe armé CRP de Thomas Lubanga. La société civile locale salue la collaboration de la population avec les forces armées. Elle encourage les FRDC à aller jusqu'au bout afin d'anéantir la menace de la CRP et de permettre ainsi le retour des déplacés dans leur milieu d'origine. Notons qu'il y a deux semaines, les FRDC avaient présenté à la presse locale plusieurs centaines d'armes et munitions récupérées au cours d'opérations militaires contre le même groupe armé dans les territoires d'Ndjougou, mais aussi contre les ADF dans les territoires d'Iromo et de Mambasa. Bunia, Martial Kiza Biamungu, Radio Okapi.
Parlons santé à présent. Kinshasa s'en va en guerre contre le choléra car cette maladie vient de franchir un cap décisif avec une hausse des cas, soit 2190 cas, dont 68 décès depuis le début de cette année. Face donc à cette situation, les autorités sanitaires, avec l'appui d'Organisation mondiale de la santé, déploient une stratégie d'urgence, c'est-à-dire quadriller systématiquement les zones les plus touchées dans la capitale en vue de briser les chaînes de transmission. Plus concrètement, les communes de Ngaliema, la partie Binzaozone, Kalamu 2 et Limete, la partie Kingabwa, deviennent le centre d'une mobilisation intense jusqu'au 8 mars prochain. Désinfection des ménages et recharge active des cas. Nancy Atambo a assisté à la première phase des opérations dans la commune de Ngaliema. Suivons son reportage.
Binza Ozone, les équipes se préparent pour le déploiement porte à porte. Microplan validé, superviseurs formés et kits distribués. La stratégie est lancée. Les relais communautaires évoquent leur engagement dans la prévention et les défis rencontrés.
Nous commençons par faire les visites à domicile et puis si nous découvrons des cas de choléra dans les ménages, nous essayons de les instruire.
Pour le ministère provincial de la Santé, cette opération vise des résultats rapides.
Il s'agit de donner le message clé à la population sur comment prévenir contre la maladie qu'on appelle le choléra.
Les autorités communales promettent une couverture de tout le ménage et préviennent contre toute résistance.
Des agents de la santé qui vont passer de ménage à ménage pour effectuer l'assainissement. Nous sommes garantis que tout se passera bien. Il y aura d'énormes sanctions à d'autres qui ont mal canalisé leurs installations sanitaires.
La coordinatrice adjointe de la Riposte assure que les moyens sont disponibles et que le premiers indicateurs sont encourageants.
Oui, c'est pas seulement moyens matériels, nous avons des ressources humaines.
À Kinshasa, la bataille contre le choléra se joue désormais porte à porte avec un objectif, casser rapidement la transmission grâce à une mobilisation collective.
Ce journal s'est poursuivi au Nord Kivu, sensibiliser la population à l'usage numérique. C'est l'objectif d'une campagne de sensibilisation de 3 semaines au profit de la communauté de la cité frontalière de Kasindi à 90 km au nord-est de Beni. Initiée par l'organisation féminine Femmes Solutions pour les changements en collaboration avec la société civile locale, cette activité visait à préserver la paix et la cohésion sociale à travers un usage responsable des réseaux sociaux. Comme l'explique Paul Zaidi, président de la société civile à Kasindi, il a été joint au téléphone par Marc Marofimbo.
Au niveau de la société civile, nous saluons la fin de la campagne de vulgarisation du code du numérique de la RDC. Cette initiative est importante pour sensibiliser la population à l'usage responsable des outils numériques et à la protection contre les infractions liées aux technologies, surtout sur les réseaux sociaux, pour préserver la paix, la cohésion sociale. Vous n'êtes pas sans savoir que Kasindi aujourd'hui compte plusieurs centaines de déplacés en provenance des zones sous conflits armés, sous occupation des rebelles. Il était important vraiment que nous puissions soutenir cette campagne de vulgarisation du code du numérique, surtout avec la sensibilisation de la communauté pour lutter contre les fake news, mais également la publication, par exemple, des images ou bien des photos, des vidéos, sans pour autant obtenir l'autorisation préalable de la personne qui est concernée par ces images. Nous encourageons la population à respecter les dispositions de cette loi afin de promouvoir un environnement numérique sain et sécurisé.
Notez que cette campagne qui a démarré le 9 février dernier a pris fin ce mercredi 4 mars 2026. Autre nouveauté dans le Haut-Katanga cette fois, la commune de Lubumbashi a lancé hier jeudi une vaste campagne de sensibilisation de 6 mois pour l'obtention des actes de naissance, de mariage ainsi que d'autres documents au bureau de l'état civil. Cette campagne vise à rapprocher davantage l'administration communale et la population et à renforcer la culture citoyenne autour des actes de l'état civil. Les détails avec Paul Munanga.
Une caravane motorisée va sillonner différentes artères de la commune de Lubumbashi pour sensibiliser la population sur l'importance de l'enregistrement des naissances dans le délai légal qui est de 90 jours après chaque naissance. Il est question aussi d'encourager les couples à régulariser leur situation matrimoniale par l'obtention de l'acte de mariage. En outre, la population sera informée sur les procédures d'obtention des différents documents qui sont délivrés par la commune. Bibish Okita Okito, l'une des sensibilisatrices, donne quelques avantages liés à l'enregistrement à l'état civil.
Lorsqu'on déclare un enfant, il a quand même certains droits. Il peut avoir droit à la succession, droit à la scolarité. Il y a beaucoup d'avantages qu'il peut avoir lorsque l'enfant a un acte de naissance.
Le bourgmestre à l'intérim de la commune de Lubumbashi insiste sur le fait qu'un mariage sans acte de naissance n'en est pas un. Oscar Dinanga Wambui.
Quelqu'un qui n'a pas un acte de mariage, il n'est pas marié. Même s'il vit avec sa femme pendant 60 ans, tant qu'ils n'ont pas fait le mariage civil, ce mariage je n'ai pas reconnu. Voilà pourquoi nous sensibilisons même les églises. Parce que les gens se disent aujourd'hui, nous ne sommes déjà mariés religieusement, c'est fini. Non, tout ça c'est beau, mais quand vous aurez des problèmes, vous aurez besoin que l'État puisse intervenir. Et l'État ne peut intervenir que si vous avez un acte de mariage.
Lubumbashi, Paul Munanga, Radio Okapi.
Ici à Kinshasa, les vendeurs du marché Pompage dans la commune de Ngaliema déclarent vivre chaque jour sous une forte pression policière. Ces derniers temps, des tracasseries policières, surtout dans les heures tardives. Les hommes en uniforme, eux, disent exécuter les ordres de leur hiérarchie en dégageant les artères. Le point avec Jérémy Baraka.
Ces vendeurs trouvés sur la grande route exposés aux accidents de circulation affirment vivre aussi dans la peur à la suite des tracasseries policières alors qu'ils tentent simplement de gagner leur pain quotidien.
Toutes les communes disposent des marchés, mais ici, nous rencontrons de grandes difficultés. Nous payons 800 francs d'État, pourtant, nous n'avons pas de marché à notre disposition. De plus, nous sommes régulièrement chassés alors que nous ne disposons d'aucun emplacement. Dans ces conditions, comment pouvons-nous subvenir aux besoins de nos familles?
La présence des étals en bordure de la route inquiète aussi les spécialistes de santé. Marquis Ndiangana, médecin généraliste au centre hospitalo-universitaire de Kinshasa, invoque les risques encourus par le vendeur ainsi que les consommateurs.
L'exposition à l'air libre et le manque d'hygiène des vendeurs favorisent la prolifération des virus, des bactéries et des parasites qui sont à la base de diverses maladies.
En attendant une solution durable, les vendeurs de pompage continue de survivre au rythme de contrôle de l'insécurité et des besoins urgents de nourrir leur famille.
Actualité internationale.
Au Kenya, il serait plus de 1000 Kenyans à avoir été recrutés au sein des forces armées russes, selon un rapport des services de renseignement kenyans présenté au Parlement le mois dernier. Certains étaient d'anciens militaires attirés par des promesses de gros salaires, d'autres pensaient partir travailler comme chauffeurs ou agents de sécurité, mais se sont retrouvés sur les fronts russo-ukrainiens. Au Kenya, leurs familles s'inquiètent de leur sort. Plusieurs dizaines d'entre elles ont manifesté jeudi 5 mars dans les centres ville de Nairobi.
L'invité.
La constitution de la RDC promulguée depuis 20 ans continue de diviser les acteurs de la classe politique congolaise. Si les uns, membres de l'Union sacrée de la nation, optent pour sa révision ou son changement, les autres membres de l'opposition sont contre cette démarche. Cette question a fait l'objet du débat entre les intervenants dans l'émission Dialogue entre Congolais d'hier jeudi. On les écoute au micro de Jean-Marc Matouaki.
Je commence par vous, honorable Ntumba Bintou Tchabola. Vous êtes député national, honoré et cadre de l'UDPS, parti membre de l'Union sacrée de la nation. Alors, quelle analyse peut-on faire de la révision ou du changement de la constitution de la République démocratique du Congo 20 ans après sa promulgation?
Il n'y a aucune disposition qui empêche le pouvoir à faire ce qu'on doit faire. Mais nous devons nous mettre d'accord que la constitution de notre pays peut être révisé. Il y a des choses que nous devons améliorer. Le contexte dans lequel cette constitution a été mise en place, personne ne l'ignore, c'était le contexte de la belligérance. Et chacun, il y avait des choses, des écueils que nous devons changer. La constitution elle-même prévoit les dispositions pour sa propre révision. Vous avez d'abord l'article 5 qui dit « La souveraineté nationale appartient au peuple ». Et c'est là, comme la souveraineté appartient au peuple, tout pouvoir émane du peuple, qu'il exerce directement par voie de référendum ou d'élection, ou indirectement par ses représentants. Ça veut dire, personne ne peut enlever au peuple, ni à une fraction de ce peuple, ces droits-là, pour dire que vous ne pouvez pas réviser la Constitution. Vous ne pouvez pas modifier la Constitution. Ça, c'est l'article 5.
Nous allons nous tourner maintenant du côté du président du parti politique ADD Congo et porte-parole de la coalition Lamuka, Prince Epengue. La coalition Lamuka s'oppose à toute éventuelle révision ou changement de la constitution. Pour quelle finalité? Pour quelle raison?
La coalition d'opposition, la Lamuka, s'oppose au changement de la constitution parce qu'il n'est pas opportun. À cet instant précis, dans ce contexte présent, l'urgence, les urgences, c'est de réunifier le pays qui a été abandonné par le régime Tshisekedi entre les mains des étrangers. C'est de pacifier le pays au nord Kivu Sud Kivu, à Ituri, au Bandundu et ailleurs. C'est de créer la cohésion et l'unité sans lesquelles nous ne saurons jamais faire face aux menaces de Paul Kagame. C'est de faire des réformes électorales. En effet, dans 2 ans, les Congolais vont se choisir un nouveau président de la République. L'urgence, c'est de construire des routes, c'est de payer les fonctionnaires de l'État. L'urgence, c'est de mettre fin à la corruption qui gangrène la patrie. Voilà pourquoi Lamuka s'oppose au changement de la constitution.
Professeur Alidor Chibanda, vous êtes docteur en sciences politiques de l'Université de Kinshasa. Nous avons affaire là à deux camps opposés. Mais vous, en tant qu'analyste et expert, comment vous analysez cette situation et quelles sont les pistes de solutions que vous suggérez?
Je suis content qu'on discute sur la loi fondamentale. C'est qu'on se pose des questions sur notre devenir, notre avenir et pourquoi pas notre destin. Mais ma préoccupation majeure, c'est que ce débat est très mal posé. Le débat est très mal posé. Pourquoi il est mal posé? Parce que le langage des uns et des autres traduit qu'il y a un problème de dégager un consensus sur ce que les Congolais doivent avoir comme vision commune. Au-delà de nos divergences, qu'elles soient culturelles, qu'elles soient politique qu'elle soit, mais nous devons nous mettre d'accord sur quelque chose. C'est notre État, c'est la manière dont nous voulons que cet État fonctionne. Alors, le débat qui pouvait être porté à la place publique, qui allait être plus intéressant, serait de discuter de nos faiblesses. Est-ce que la démocratie telle que nous l'avons conçue avance-t-elle ou elle reflète les faiblesses de l'incompréhension des principes démocratiques? Est-ce que l'homme congolais, tel que nous voulons qu'il vive, tel que nous voulons qu'il soit socialisé pour devenir patriote, pour devenir citoyen, est-ce que nous y sommes arrivés ou nous ne sommes pas encore arrivés? Mais le débat de changement des articles, changement de mots, changement de noms, dès lors que cette constitution n'est pas encore totalement appliquée, moi je trouve que, je ne dirais pas que nous sommes dans les débats des caniveaux, je dis que nous sommes en train de nous distraire.
Vous pouvez continuer à suivre l'émission Dialogue entre Congolais sur www.radiocapi.net et sur toutes les plateformes numériques de Radio Capi. Et c'est par ici que prend fin notre journal coordonné et supervisé par Lievin Mbuinga Vubu et mis en onde par Pierre Diassinois.